Compose, épisode 55.
Ça m'a fait un choc, oui, et puis tout le reste m'a en fait énormément choquée. C'est comme si d'un coup j'ouvrais les yeux sur un monde que je connaissais pas, que j'utilisais par contre, mais dont je ne comprenais pas les choses qui en découlaient. En gros. Et donc, moi qui ai toujours aimé les animaux, quand j'étais petite, je sauvais des coccinelles des flaques, enfin, ce genre de choses-là, je n'avais pas compris que mon mode d'alimentation en soi, et après le mode vestimentaire, etc., mais ça, c'est dans un second temps, avait un impact aussi fort sur le bien-être des animaux, en fait. Et oui, ça m'a fait un choc. Au début, c'est super difficile. On se sent coupable, on se sent en colère, on se demande mais pourquoi on peut laisser faire ça à des animaux comme ça pour quelque chose qui est si présent dans notre mode de vie. Enfin, je veux dire, la viande, le lait, les œufs, tout ça, c'est central en Europe dans notre mode d'alimentation. Et pourtant, quel fléau c'est pour les animaux, la planète, etc.
Dans ce nouvel épisode, je suis ravie de recevoir Sophie Locatelli, présidente du Rêve d'Abby. Le Rêve d'Abby, c'est un refuge pour animaux de la ferme et chevaux situé à Gembloux. Ensemble, on a parlé de sa passion pour les chevaux lorsqu'elle était plus jeune, de sa rencontre avec une vache prénommée Abby, de sa prise de conscience de l'impact de l'alimentation sur le bien-être des animaux, de son envie de sensibiliser, de l'ouverture du refuge, de ses pensionnaires, de l'importance de ne pas faire culpabiliser, de la bulle qu'est le rêve d'Abby, des moments difficiles, de liberté. Cet épisode est diffusé cette semaine dans le cadre du Podcaston, un événement rassembleur qui a pour but de visibiliser associations et ONG au travers de podcasts. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Sophie d'être avec moi aujourd'hui sur Compose.
Merci Julie de m'avoir invitée.
Tu es donc la présidente du Rêve d'Abby, un refuge pour animaux de ferme et chevaux ici à Gembloux. Tu peux un peu d'abord expliquer concrètement, c'est quoi le Rêve d'Abby? Quand on arrive ici, qu'est-ce que c'est?
Alors, le Rêve d'Abby, c'est donc un refuge pour animaux de ferme et chevaux. Donc, c'est un endroit, en fait, où on accueille des animaux qui sont soit issus de maltraitance, et c'est la plupart des animaux qui sont dans cette situation-là. Certains animaux sont trouvés errants sur la voie publique et d'autres sont simplement abandonnés par leurs propriétaires. Et en fait, ici, on les prend en charge, on les soigne et on essaye de leur offrir la vie la plus proche possible de leurs besoins éthologiques et physiologiques pour ensuite pouvoir les proposer à la adoption et leur trouver des chouettes familles qui prendront soin d'eux jusqu'à la fin de leur vie, en fait.
Pour revenir un peu avant le lancement du Rêve d'Abby, toi, ça te vient d'où comme ça, cette passion, cet amour pour les animaux?
Alors, je ne sais pas t'expliquer exactement d'où ça vient, parce que ce n'est pas comme si je venais d'une famille qui était hyper animaux. Enfin, comme la plupart des gens, on a eu un chien. En fait, c'est tout. On n'a eu qu'un chien. Et j'ai directement été très fan des chevaux, moi. J'ai jamais joué à la poupée, mais toujours au petit poney, par exemple. Et j'étais toujours intéressée quand je voyais des chevaux sur le bord de la route ou ce genre de choses. Il faut savoir aussi que je viens de Bruxelles, donc je n'ai pas baigné dans une atmosphère rurale du tout, quoi. Et du coup, comme mes parents voyaient que j'aimais les chevaux, on m'a inscrit à l'équitation. Et donc, tous les dimanches, j'allais faire du poney, etc. Et c'est vraiment resté en moi. Et comme toutes les petites filles qui font de l'équitation, je voulais avoir mon poney ou je voulais avoir mon cheval. J'ai dû attendre un petit peu. Et finalement, j'ai eu mon premier cheval à 14 ans, je pense, que j'ai gardé jusqu'à la fin. Et là, je suis tombée dedans, en fait, complètement. Et j'ai agrandi un petit peu mon cercle d'amour pour les autres animaux. Et de fil en aiguille, j'ai toujours été une passionnée d'animaux. J'ai fait mes petites études sur les animaux. J'ai toujours été très intéressée par leur mode de fonctionnement, par surtout leur comportement entre eux, en fait. Ça m'a toujours vraiment intéressée.
Et à ce moment-là, quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que tu voulais faire plus tard? Tu voulais travailler avec des animaux?
Je voulais faire vétérinaire, évidemment.
Surprise.
Oui, c'est ça. Donc, je voulais faire vétérinaire. Et puis, quand j'ai continué un petit peu à réfléchir là-dessus, évidemment, pour les vétérinaires, il y a le problème de l'euthanasie, le problème de voir toujours des animaux malades, ce qui m'empêchait un petit peu de voir ce métier de la bonne façon à long terme. Et donc, j'ai un peu cherché. Et à un moment donné, je voulais être éthologue de la faune marine. Mais ça m'est vite passé aussi, quoi.
Et après, le rêve d'Abby, bah, c'est né avec la rencontre d'une vache.
C'est né d'une rencontre juste incroyable. Donc, en soi, comme j'avais mes chevaux et que le but était de les avoir près de moi aussi, parce que, ben voilà, quand on a des personnes, entre guillemets, animales qu'on aime, on a envie de les avoir près de soi le plus possible. Et j'ai acheté une ferme dans le Brabant Wallon pour pouvoir avoir mes chevaux à la maison. De nouveau, je venais d'un milieu plutôt, enfin, je venais de la ville. Je connaissais absolument pas le milieu rural, les fermes, tout ça. Enfin, comme tout le monde, pour moi, une vache, elle faisait du lait juste parce que c'était une vache. Et en face de chez moi, il y avait une ferme avec qui, enfin, on s'entendait bien avec les personnes qui tenaient cette ferme. Et je leur ai demandé pour aller voir les vaches. Et puis petit à petit, pour voir les mises bas, parce que, bah, comme la plupart du monde aussi, les bébés animaux, on est toujours vachement plus touchés par eux, etc. Et donc le soir même, évidemment, comme il y avait beaucoup de vaches, il m'a appelé pour une mise bas. Le temps que je traverse la rue, il y avait un veau qui était né déjà de cette vache laitière. Et il m'a dit « Ah mais attends, il y en a un deuxième qui arrive ». Et donc j'ai tiré le deuxième veau pour l'aider à sortir de sa maman. Et là, en fait, c'est Abby qui est née. Le problème, c'est que Abby avait donc un frère jumeau. Et dans le cas de vaches laitières, quand il y a des jumeaux de sexe opposé, en fait, le risque est trop grand que la génisse devienne infertile, en fait, devienne stérile à l'âge adulte. Et donc, ben, les fermiers ne prennent pas le risque financier de les amener jusqu'à l'âge adulte, vu que ben, si une vache laitière est stérile, elle peut pas donner de veau, donc elle ne peut pas faire de lait. Et là, ben, évidemment, mon cœur s'est complètement serré quand je me suis dit, ben là, en fait, je viens d'aider des animaux à naître et ils vont partir à l'abattoir, en fait. Et comme j'avais la ferme d'en face, de la place, juste deux chevaux et deux poneys dans la ferme, ben, j'ai décidé de prendre Abby comme vache de compagnie, en fait. Et donc, bien sûr, ben, quand elle est arrivée chez moi, une grande histoire a commencé.
Ça t'a fait un choc, vraiment, d'apprendre cette réalité pour la naissance de ces veaux?
Alors, ça m'a fait un choc, oui. Et puis, tout le reste m'a, en fait, énormément choquée. C'est comme si, d'un coup, j'ouvrais les yeux sur un monde que je connaissais pas, que j'utilisais, par contre, mais dont je ne comprenais pas les choses qui en découlaient. En gros. Et donc, moi qui ai toujours aimé les animaux, qui, quand j'étais petite, je sauvais des coccinelles, des flaques, enfin, ce genre de choses-là, je n'avais pas compris que mon mode d'alimentation en soi, et après le mode vestimentaire, etc., mais ça, c'est dans un second temps, avait un impact aussi fort sur le bien-être des animaux, en fait. Et oui, ça m'a fait un choc. Au début, c'est super difficile. On se sent coupable, on se sent en colère, on se demande mais pourquoi on peut laisser faire ça à des animaux comme ça pour quelque chose qui est si présent dans notre mode de vie. Enfin, je veux dire, la viande, le lait, les œufs, tout ça, c'est central en Europe dans notre mode d'alimentation. Et pourtant, quel fléau c'est pour les animaux, la planète, etc.
Et tu ressentais de la colère aussi pour le fait que, justement, c'est des choses qu'on ne nous apprend pas. Enfin, on est à l'école, etc. Justement, tu parlais des vaches laitières. On ne nous apprend pas comment ça fonctionne, tout ça. Tu étais en colère par rapport à ce niveau-là aussi?
Alors, j'étais pas en colère, c'était pas le bon mot. Enfin, il y en avait peut-être un peu, mais c'était surtout la tristesse de l'injustice. De l'injustice de se dire, mais en fait, c'est exactement par là qu'on doit commencer à éduquer les enfants, leur expliquer comment fonctionne le monde, en fait, et comment on crée nos liens avec les autres espèces ou même entre humains. Et on ne le fait pas du tout. Moi, combien de fois on m'a pas dit, bah oui, bah, le lait, les vaches, elles en font comme ça parce que c'est des vaches, ou bah, d'où vient ta tranche de jambon du magasin? Et la poule, bah oui, elle pond des œufs, mais c'est pas normal qu'il y ait autant d'œufs et qu'il y ait autant de poules et que bah, y ait quasiment pas de coqs. Et tout ça, en fait, mais même moi, en tant que jeune adulte, finalement, j'y avais jamais réfléchi. Jamais.
Et quand Abby est arrivée, après, quel a été le cheminement pour que tu te dises, en fait, je vais ouvrir mon refuge?
Donc, d'abord, le cheminement, il a été très, très personnel. Ouais. Donc, je me suis vraiment beaucoup intéressée à ce monde-là, aux droits des animaux et surtout aux droits des animaux de ronde. J'ai énormément lu, j'ai regardé beaucoup de choses. Enfin, vraiment, je me suis intéressée à ça. Et en fait, je me suis dit, mais tiens, cette petite vache, elle a quand même réussi à me changer la vie, en fait, sans le vouloir, en gros, juste du fait d'être elle. Et je me suis dit, ben, pourquoi est-ce que j'essayerais pas qu'elle change le...
Oui, désolée, ton chien essaye de venir sur mes genoux, je vais l'aider.
Mais elle n'y arrive pas. Et donc, je me suis dit que cette petite vache allait probablement pouvoir changer la vie d'autres personnes et surtout d'autres animaux, mmh. en éveillant les consciences, en fait, en expliquant tout ce qui se passe, la vérité sur l'élevage, mais aussi en apprenant, enfin, en permettant aux personnes de pouvoir rencontrer ces animaux d'une autre façon que via l'exploitation et de comprendre, bah oui, qu'elles sont, enfin, que les vaches, en tout cas, sont des êtres fantastiques avec un mode de vie juste génial, enfin, entre guillemets, avec des valeurs incroyables. Et donc, je me suis dit, bah oui, je vais créer une ASBL plutôt de sensibilisation. Mmh. Mais comme j'avais de la place, des prairies, tout ça, j'ai vite été... On m'a vite interpellée pour prendre des animaux abandonnés, pour sauver des poules, des choses comme ça. Et d'autres personnes ont voulu nous aider. Et donc, ben, quand j'ai fait un peu la somme de tout ça, je me suis dit, oui, là, il faut faire quelque chose de bien carré. On va faire une ASBL et puis, petit à petit, on va se mettre en refuge agréé pour que les choses soient bien carrées, mmh. bien clean, quoi.
Tu t'attendais à ça que, ben, en fait, ce soit rapide le fait que on vous appelle, on t'appelle pour ben, sauver des animaux, quoi. Tu t'attendais à ce qu'il y ait un tel besoin ?
Ah, pas du tout. Alors, pas du tout, parce que ben, je connaissais pas vraiment d'autres refuges pour animaux de ferme. J'avais pas capté qu'on pouvait les sauver de maltraitance, en dehors évidemment de l'exploitation dans les fermes, etc. Et donc, je m'étais dit, ben, ça va être cool, en fait. Il va pas y avoir beaucoup d'animaux à prendre en charge, etc. Et puis, là, je suis 10 ans plus tard et je me dis, ben, je me suis bien trompée dans mon sentiment par rapport à ça.
Et alors, bah, quelles sont les étapes comme ça ? Comment vous devenez vraiment un refuge agréé ? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour justement avoir ce titre officiel ?
Alors, par rapport au titre officiel, il faut remplir toute une sorte de cahier des charges, ouais. en gros, qui est contrôlé par l'administration. On doit surtout avoir beaucoup de papiers en ordre. Enfin, il y a vraiment une obligation de tenir des registres, des choses comme ça, qui sont quand même assez lourds administrativement. Et puis, ben, on a des obligations et des interdictions, comme par exemple, ben, on ne peut pas faire reproduire les animaux, ce qui me semble plutôt logique, il y en a suffisamment. On ne peut pas les importer non plus parce que réglons d'abord la misère en Belgique avant de pouvoir s'attaquer au reste. Alors évidemment, moi, je ne suis pas contre qu'on aide le reste, mais pas en tant que refuge agréé par la région Wallonne. Et évidemment, on ne peut pas vendre d'animaux parce qu'on est tous en ASBL et donc le but ne doit pas être pécunier, évidemment. Quoi.
Et au fur et à mesure, quels sont les premiers animaux comme ça que vous faites venir au refuge ?
Alors, au tout début, donc, les premiers animaux que j'ai acceptés après Abby, c'est Raoul et Betty, un couple de cochons vietnamiens. Et là, ben, je ne savais pas à la base que j'allais être confrontée à cette énorme problématique des cochons vietnamiens, dits cochons nains, mais qui ne sont pas si nains que ça. Ouais. Et donc, en fait, c'est une personne qui a eu un mâle et une femelle. Et évidemment, ben, mâle et femelle, ben, ça fait des bébés. Et du coup, il a été dépassé par le nombre de cochons parce que ça peut en faire 12, quoi, des bébés. Et donc, j'ai repris deux petits porcelets, Raoul et Betty. Raoul qui est toujours là, Betty qui, malheureusement, est décédée ben, de vieillesse. Et pour la petite histoire, si je peux la raconter.
Oui,
donc, Raoul était un mâle et Betty une femelle et on a dû faire castrer Raoul. Et comme on était en plein hiver mais que je voulais absolument pas prendre le risque d'avoir des bébés en plus entre frères et sœurs, quand on a castré le mâle, j'ai dû le mettre dans ma chambre d'amis au départ pour qu'il soit bien au chaud et qu'il soit bien et qu'on puisse bien le surveiller. Et quand je suis rentrée le lendemain matin dans la pièce après avoir dormi la nuit, quoi, je me suis demandé comment les gens faisaient pour avoir des cochons comme ça chez eux parce que en gros je n'avais plus de papier peint parce que c'était du papier peint dans cette chambre-là. J'avais un trou dans mon sol. J'avais je passe les déjections partout, les pipis partout, et j'avais ce cochon qui grimpait au mur, qui tournait, mais qui était content, qui était en forme, quoi, mais qui m'avait ravagé une pièce complète, quoi. Et là, je me suis dit, ah oui, il y a aussi beaucoup à dire et à faire par rapport à ça, de dire, ben oui, ça peut être des animaux de compagnie, mais pas dans n'importe quelle situation, quoi, parce ça peut faire de gros dégâts, quoi.
Ouais, ouais. Et oui, ben chaque animal ici a un prénom et vous racontez aussi son histoire. C'est important de, voilà, les personnaliser, en fait. Enfin, pas qu'ils soient juste, ça, c'est un cochon, ça, c'est une vache. tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais,
Bah, en fait, le truc, c'est que c'est déjà tellement le cas dans les élevages. Ouais. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a 11 millions de cochons, par exemple, qui sont tués chaque année en Belgique. Et donc, bah, ces 11 millions de cochons, bien sûr qu'ils n'ont pas de prénom. Et bah, pour pouvoir justement sensibiliser et responsabiliser les gens, il faut pouvoir les individualiser. Dire, bah, voilà, la tranche de jambon que vous allez mettre dans votre sandwich, en fait, à la base, c'était un cochon. Mais ce n'était pas n'importe quel cochon. C'était un individu à part entière, qui avait son caractère, qui avait ses envies, qui avait ses émotions, etc. Et c'est ça, en fait, qu'on essaye d'amener ici au rêve d'Abby, en présentant les animaux. Ben, je veux dire, par exemple, comme si on parle de cochons, Junior et Rose, qui sont à l'entrée du refuge et qui accueillent quasiment chaque personne. Enfin, quand il ne fait pas trop froid et qu'il ne pleut pas, parce que sinon, ils ne sortent pas de leur maison.
Mais ils sont bien accueillis, là. Oui,
ben, voilà. Qui viennent accueillir, c'est de montrer, ben voilà, ils sont, c'est des cochons, des bêtes cochons roses, comme il y en a, ben, 11 millions par an en Belgique, mais ils sont totalement, déjà, eux deux sont totalement différents. Junior, il n'arrête pas de parler et de faire plein de bruit comme ça pour accueillir les gens. Rose, elle est un petit peu plus en retrait parce que bah, elle est aussi, elle a un peu peur de Junior qui est quand même assez costaud. Et donc, c'est vraiment ça qu'on essaye de montrer aux gens, c'est que vous aimez votre chien pour ce qu'il est. Et vous le connaissez par cœur. Enfin, je veux dire, nos chiens, on les connaît par cœur. Mais en fait, les autres animaux, c'est pareil. Mmh. Ils sont tous aussi différents les uns des autres. Et moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que l'élevage et l'exploitation animale a justement voulu rendre ça complètement caché et de faire une masse d'animaux opaques dont on ne peut même pas se rendre compte, en fait. C'est les cochons. Les vaches, c'est tout ce genre de choses. Les poules, alors les poules, c'est encore pire. Il n'y a vraiment pas d'individualisme par rapport à ces animaux-là. C'est pris dans une masse, quoi. Et comme ils meurent très, très vite dans les élevages, 6 mois pour les cochons, 52 semaines chez les poulets de chair, ben en fait, il n'y a pas besoin de les individualiser. Ça devient des produits, en fait. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment cette chose-là qu'on veut... combattre, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais qu'on veut changer ici au rêve d'Abby.
Ouais, ouais. C'est vraiment une dissonance cognitive, en fait, et L214, donc, qui se bat justement pour ça, montre souvent, bah, est-ce que vous feriez ça avec votre chien? Non, bah, vous le faites pourtant avec une vache, avec un cochon, etc. C'est important de faire se rendre compte aux gens, mais de manière positive, parce que finalement, le message ici, il est très positif aussi. On n'est pas là pour les culpabiliser, quoi.
Non, c'est ça, parce que moi, j'ai voulu que le message reste très, très positif, parce que avec moi, personnellement, ma prise de conscience, je suis tombée de 10 étages, quoi. Ouais. Et en fait, si à ce moment-là, on m'avait agressée en me disant que j'étais quelqu'un de mauvais parce que, bah oui, je mangeais de la viande à peu près comme tout le monde, je suis pas sûre que j'aurais été ouverte à entendre ce message-là, quoi. Et puis, bah, moi, je pense vraiment que ce genre de choses, il faut permettre ce cheminement de manière positive. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'être un peu bousculés pour ça. Ok, très bien. Moi, je pars du principe qu'on peut aussi être accompagné et que l'important, c'est la finalité. L'important, c'est pas le moyen, c'est le but, en fait, ici, dans ce cas-ci. Et donc, voilà, j'ai pris ce choix-là en me disant, enfin, en ayant l'impression que c'était pas encore fait ailleurs et que, bah, moi, je préfère que les gens viennent caresser Junior et que d'un coup, ils se disent, comme moi, j'ai eu avec Abby, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais ce soir? Je fais des côtes de porc. En fait, c'était peut-être Junior. Enfin, en tout cas, il était peut-être aussi cool que lui. Et d'avoir cette bienveillance-là par rapport aux animaux plutôt que d'avoir une culpabilisation, oh là là, je suis une méchante personne parce que je mange de la viande. Ça tient pas, en fait, sur le long terme non plus, quoi.
Ouais, ouais. Comment tu t'es renseignée, toi, à l'époque? Parce que y a, c'était moins aussi courant, entre guillemets, les livres, etc., les
tu
vidéos.
Tu me fais passer pour quelqu'un de vieux, là.
Non, mais c'est parce que même quand moi, je me suis renseignée, il y avait moins de choses, donc... Ouais. Pardon.
Bah, en fait, déjà, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller dans les fermes.
Ouais.
Donc, j'ai voulu voir comment ça se passait vraiment et ce qui, moi, me dérangeait. Donc, qu'est-ce qui n'était pas éthique pour moi? Et donc, ben, j'ai visité la ferme laitière, évidemment, en face. J'ai été voir des fermes à cochons. Ça, c'est hard. J'ai été dans des batteries de poules aussi. Donc, ça, c'est vraiment compliqué. Mais j'ai également été voir des élevages d'animaux en plein air, etc. En me disant, ben, ça va être mieux. Et en fait, y a plein de choses qui me gênent aussi dans ce genre d'élevage-là. En fait, moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'on utilise des animaux comme des produits et qu'on n'ait pas de respect pour eux, pour ce qu'ils sont, en fait, et pas juste pour ce qu'ils peuvent donner. Et puis, ben, j'ai cherché des bouquins, évidemment, j'ai beaucoup lu, il y avait quand même pas mal déjà de... Ouais, de choses sur YouTube, tout ça, pour qui expliquait un petit peu la vision des choses d'un point de vue antispéciste, ouais. Donc qui ne faisait pas de différence entre les espèces. Et puis moi, j'ai vraiment voulu faire mon propre cheminement. En fait, j'ai pas voulu avoir comment dire des choses toutes faites qui étaient, enfin que je respectais en fait comme si c'était un peu genre une religion. J'ai voulu me dire ok, je vais à mon aise. Ça pour moi, c'est pas éthique. Ben du coup, j'y vais pas. Enfin, je le fais pas. Ça, ben, j'ai un peu plus de soucis à comprendre pourquoi je devrais m'en passer. Je pense notamment du miel, des abeilles et tout ça. C'était quelque chose qui, ben, je me disais, ben, tiens, c'est pas un problème. Et puis en me renseignant, je me suis dit, ah ben si, quand même, finalement, c'est peut-être un problème. Donc je vais arrêter ça aussi. Mmh. J'ai vraiment été doucement et je suis contente de ça parce que c'est vraiment, pour moi, tout est bien clair, tout est bien, c'est posé quoi. Bien sûr, je me pose encore plein de questions sur plein de choses. Mais pour tout le principal, j'ai plus aucun doute sur ce que j'ai envie et sur ce que je fais.
Et donc, tu es devenue végétalienne, puis végane aujourd'hui ?
C'est ça, oui. Donc, végétarienne dans un premier temps, très facile, j'ai envie de dire. C'est pas compliqué de faire le lien entre de la viande et un animal, ouais. Vu que c'est un morceau de l'animal. Après, ben, il faut comprendre le problème du lait, donc du fait qu'on retire les veaux aux mères, et moi je les ai entendus hurler, enfin pleurer. C'est compliqué. Ouais. Alors il y a pour la vache en soi, mais il y a pour les veaux mâles qui ne servent à rien, qui sont envoyés à l'engraissement, mais enfin... Dans des fermes qui n'ont de ferme que le nom et qui sont pas du tout la petite ferme idyllique qu'on peut se rendre compte avec des fleurs partout, c'est des hangars avec des cages et les animaux enfermés dans le noir, rendus anémiques pour que la viande soit blanche, des veaux qui pleurent, enfin en plus c'est des bébés et on peut pas ne pas être attendri en plus de ça quand c'est des bébés, enfin tout ça, et puis les œufs, se rendre compte, bah oui, la poule elle pond, donc pourquoi pas manger ses œufs, bah juste parce que à la base il y avait des coqs aussi et que les coqs, ben, ils ont été broyés vivants ou étouffés, et ça, ben, on veut évidemment pas, gérer ça, quoi.
Et après ça, après toute cette prise de conscience, ben, y a aussi tout ce qui est exploitation animale pour les vêtements, les sacs, les accessoires, etc. Mm-hmm. Ça a aussi été un choc pour toi ?
Alors, je peux pas dire que c'était un choc, c'était plutôt une continuité, en gros. Ben, y avait l'alimentation, c'était un petit peu le gros point important qui a le plus d'incidence sur les animaux. Et le reste, en fait, est venu un peu naturellement de se dire, bah oui, je vais pas mettre de fourrure, ça c'est clair, mais ça, j'ai jamais voulu le faire, quoi. mais après, il y a tout ce qui est cuir, il y a la laine, il y a tout ce genre de... La soie aussi, enfin, et toutes des choses auxquelles on pense pas. Enfin, je veux dire, par rapport à la laine, encore maintenant, on me dit, oui, mais bon, on tond les moutons. Oui, c'est vrai, on tond les moutons, mais par exemple, nos moutons du refuge, la laine n'est pas forcément utilisée pour faire des pulls. C'est aussi une industrie avec son lot de maltraitance, etc. Mmh. Et moi, je veux juste pas être cautionner ça, je veux pas être complice de ça. Donc, bah, au niveau des vêtements, au niveau de tout ça, je trouve que c'est vraiment super facile. En plus, les alternatives aujourd'hui sont tellement nombreuses. Il y a bien sûr des produits hyper éthiques de qualité faits par des artisans, etc. Maintenant, qui peuvent avoir un coût quand même un petit peu important. Mais sinon, en dehors de ça, si on veut vraiment plus mettre de cuir, je pense, pour les chaussures, toutes les grandes marques ont des chaussures qui sont pas en cuir. Et donc, c'est vraiment pas compliqué de pouvoir s'habiller et même, enfin, maintenant, se maquiller, se laver sans produits d'origine animale. Je veux dire, il y a rien de plus simple, quoi.
Et pour revenir au refuge, du coup, comme tu te rends compte rapidement qu'il y a beaucoup de travail à faire, comment tu commences à t'entourer ? Comment les premiers bénévoles arrivent ?
Ben, ça s'est fait assez naturellement, en fait. Des personnes qui ont eu peut-être le même genre de prise de conscience que moi, qui ont voulu aller un petit peu dans un endroit où on pensait un peu comme eux et où on ne les prenait pas comme des extraterrestres ou des gens beaucoup trop sensibles qui font attention aux poules et aux vaches. Mais enfin voilà, ce qu'on nous dit souvent, c'est occupez-vous des humains, il y a beaucoup à faire aussi. Oui, c'est clair, il y a beaucoup à faire, mais chacun choisit son combat, donc voilà. Et en fait, il y a eu un peu comme un petit réseau qui s'est créé avec des personnes. Mais par exemple, les bénévoles se donnent tout le temps leurs petits tips, recettes, ou tiens, moi j'ai mis ça dans ma recette, tu devrais essayer. Donc, il y a comme, en fait, on se soutient tous les uns les autres, et ça, c'est vraiment cool. Et alors, pour ce côté aussi sensible, parce que, enfin, moi, je trouve pas ça mal d'être sensible par rapport à certaines situations. Je veux dire, moi, ça m'est arrivé de voir juste des vaches en prairie et d'être remplie de tristesse en me disant, mais en fait, ce qu'elles vont vivre va être affreux. Et d'avoir vraiment ce sentiment de j'ai envie de changer les choses, je veux changer le monde, et de je suis désolée pour vous de ce que vous allez vivre, mais là je peux rien faire, quoi. Et donc cette chose-là, si on en parle à n'importe qui a pas compris ça ou qui est pas sensible par rapport à ça, on se fait souvent traiter de voilà, d'extrémistes, de choses comme ça, mais en fait c'est juste des émotions qu'on ressent, et on devrait pas avoir honte des émotions qu'on peut ressentir, que ce soit par rapport à n'importe quoi en fait. Et donc voilà comment sont arrivés les bénévoles à la base, et puis il y a aussi des bénévoles qui ont envie d'apporter leur petite touche dans ce monde, et faire du bénévolat dans une ASBL, dans un refuge, c'est on va dire la chose la plus accessible pour tout le monde, quoi. Je veux dire, tout le monde a pas envie de créer son truc, et je les comprends. Mais on a autant besoin de bénévoles que de personnes qui créent des ASBL, donc ouais. c'est juste bien, quoi.
Ça t'a fait du bien, justement, de voir que pas mal de personnes pensaient comme toi à ce niveau-là?
Ah, ça fait un bien fou, en fait, vu qu'on est une espèce animale sociable, se dire qu'on n'est pas seul, c'est juste génial, quoi. Ouais. Et puis après, rencontrer d'autres ASBL, d'autres refuges, se dire que on n'est pas tout seul dans cette bataille, c'est hyper important, tout en gardant notre individualité, enfin ce genre de choses-là. Au rêve d'Abby, il y a un truc un peu spécial, je veux dire, faut pas le cacher, il y a une espèce d'atmosphère et de que j'ai jamais encore retrouvé ailleurs, et tant mieux, mais c'est très important d'être en équipe, en fait, en groupe, quoi.
Ouais. Et du coup, donc à côté des bénévoles, il y a aussi parrains, marraines, les dons. Oui. Comment ça fonctionne en fait? Comment tu arrives à justement avoir l'argent nécessaire pour s'occuper de tous les animaux qui sont ici?
Alors, c'est une bataille de chaque instant, ouais. Ça il faut bien le savoir. Et on a galéré pendant 10 ans, mais vraiment fort, à pas savoir comment terminer le mois, à pas savoir comment payer les factures de paille, de foin, devoir faire des événements de fou parce qu'il nous manquait 500 euros pour le foin, quoi. Et puis ça s'est un petit peu calmé par rapport à ça, donc on est de plus en plus soutenu. Et donc le soutien, c'est quoi? C'est des parrainages, évidemment. Donc c'est une somme d'argent qui est versée chaque mois pour un animal particulier. Alors bien sûr, évidemment, s'il y en a qui sont plus parrainés que d'autres, on va pas leur donner plus à manger que les autres, c'est vraiment, ça se met dans un pot commun, quoi. Les dons ponctuels ou même mensuel, ou les événements qu'on crée, et alors aussi les legs qui sont en fait méga importants. Ah, donc oui. Des personnes qui, au-delà de leur vivant, ont envie d'apporter aussi leur pierre à l'édifice, et donc qui donnent leur héritage aux associations.
Et comment ces personnes ont été comment vous les avez trouvées, en fait, toutes ces personnes-là qui font des dons, que ce soit ponctuels, récurrents, etc. Est-ce que c'est par la communication autour du rêve d'Abby? C'est des gens qui ont connu via. Enfin, tu vois, comment vous faites connaître le refuge?
Alors, c'est très compliqué. Ouais. Et en fait, quand on commence, on a l'impression, je pense que ça va se faire un peu tout seul, mais c'est pas du tout ça. Il faut bosser, quoi, je veux dire. Et il faut... moi, j'ai vraiment passé des mois et des mois et des mois à essayer de mettre en place une sorte... J'aime pas ce mot, mais c'est une sorte de stratégie, en fait, de savoir comment passer un message, comment passer des valeurs, comment rester justement bien clean par rapport à nos valeurs. J'ai eu une bénévole vraiment incroyable pour ça, qui est Isabelle, que tu connais aussi, qui m'a vraiment aidée, qui a été le garde-fou aussi de tout ça, et c'est vraiment super cool. Et c'est en fait bosser, se casser la tête, avoir des nuits blanches aussi pour se dire comment faire. Et petit à petit, en fait, la mayonnaise a pris, en gros. Et c'est ça qui est chouette, parce que j'en connais plein où ça prend pas. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez ce travail derrière de se rendre compte. C'est pas parce qu'on a des animaux et une page Facebook que ça marche, quoi. Faut bosser, en fait.
Oui, oui. Tu t'attendais à l'ampleur du travail qu'il y avait quand tu as lancé le refuge?
Alors pas du tout. Moi, je pensais juste que j'allais aller sauver des petits animaux. Et voilà. Mais en fait, il y a tellement de choses à faire pour un refuge. Déjà, au niveau de la gestion, ça doit être géré comme une entreprise, en fait, finalement. On a de la comptabilité à rendre, plus d'autres choses en plus que n'ont pas les entreprises, quoi. Il y a toute la gestion bénévole personnelle qui est très compliquée aussi. toute la gestion sanitaire des animaux qui est vraiment pas... Et alors... gérer l'humain, c'est peut-être compliqué aussi entre les bénévoles, les personnes qui viennent, les personnes qui nous aiment pas, les personnes qui nous aiment trop, les tout ça, c'est ouais non, je me serais jamais rendu compte de ça, mais c'est chouette en fait. Moi j'adore ça, découvrir des choses sur le tas et pouvoir apprendre des choses au fur et à mesure des moments, c'est vraiment chouette. Mais non, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière et de la face cachée un petit peu des refuges.
Ouais. Mais c'est important pour toi de garder justement cet aspect-là, d'être une entrepreneuse aussi, parce que c'est vraiment ça que tu es, d'avoir ton refuge à toi, c'est important.
C'est primordial. Moi, j'ai besoin... Comment expliquer ça? J'ai besoin de pouvoir faire ce que je veux. Ouais. Enfin, c'est pas ce que je veux, mais ce qui me semble juste, en fait. Et je veux pas de bâton dans les roues, alors... Évidemment, toutes mes décisions sont pas prises de manière unilatérale, etc. Mais ça reste dans mes valeurs, ça reste dans mes envies. Et je veux être libre, en fait. C'est ça aussi. Donc oui, jamais je quitterai mon refuge.
Trop bien. Actuellement, il y a combien d'animaux au rêve d'Abby?
Plus ou moins 150. Ah ouais. Évidemment, dans ces animaux-là, les plus petits sont des petites cailles qu'on a sauvées aussi de maltraitance. Et les plus grands sont les vaches, dont Tim, que tu connais aussi, qui est notre bœuf Holstein, qui mesure 2 mètres au garrot et qui est plutôt impressionnant, mais avec une gentillesse juste incroyable.
Qui fait beaucoup de câlins.
Oui, et des bisous baveux.
Et tu as une idée, depuis le début, combien d'animaux vous avez pu sauver?
Non. Ça, je sais pas te dire. C'est trop compliqué. Alors, je pourrais te les trouver avec les entrées, les sorties, mais ça me demanderait beaucoup de travail.
Ouais.
Je sais que chaque année, plus ou moins 300 animaux arrivent. Une centaine sont adoptés. Malheureusement, il y a des animaux pour lesquels on arrive trop tard. Ça, c'est clair. Mais donc, voilà, je dirais plus ou moins ce chiffre-là. Mais ça a été avec une croissance. Donc, je sais pas te dire. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Oui, par rapport aux adoptions, justement, déjà, ça te fait quoi quand tu vois que des personnes comme ça veulent accueillir un animal qui est ici?
Alors, c'est bizarre parce que j'ai deux sentiments qui se côtoient. Surtout quand c'est des animaux, voilà, il n'y a rien à faire, il y a des animaux avec qui le courant passe mieux que d'autres et des animaux sur lesquels on s'attendrit plus ou avec une histoire plus... Enfin voilà, plus lourde que d'autres. Et donc, parfois, quand je sais que tel animal va être adopté, j'ai un petit pincement au cœur en me disant « je vais plus le voir ». Mais ce côté un peu égoïste passe assez vite en me disant « attends, tu l'as sauvé d'un endroit, c'est pas pour qu'il reste au refuge non plus ». Alors bien sûr, ils sont bien ici, c'est pas ça que je dis. Mais un animal qui va dans une famille où ils sont quelques-uns, ou au moins deux, parce que c'est toujours des animaux grégaires, je le rappelle en passant, donc il faut toujours au moins deux animaux de la même espèce, va être beaucoup plus choyé. Et beaucoup plus, je veux dire, on va le connaître pour ce qu'il est, on va le connaître encore plus que nous, son comportement, ses besoins, etc. Et je ne peux pas priver des animaux que j'ai sauvés de ça, en fait. Et donc, de nouveau, comme pour plein de choses, j'essaye de me mettre en retrait et de penser plutôt à l'animal et aussi aux personnes qui vont avoir la chance d'avoir parfois des animaux juste incroyables dans leur vie, quoi.
Et à quoi vous faites attention comme ça? Il y a des contrôles avant que la personne adopte. À quoi vous faites attention avant que l'animal aille chez cette personne?
Il y a toujours une prévisite d'adoption, en fonction des espèces aussi. Il y a évidemment des critères qui changent en fonction des espèces. Mais je prends par exemple un truc auquel évidemment on fait attention, c'est la taille du terrain et la taille de l'abri, en fait. Ça, c'est juste le plus important. Puis il y a les clôtures, bien sûr. On ne peut pas faire partir des chèvres dans des endroits où les clôtures sont un peu poreuses, sinon c'est les mettre en danger, quoi. Et puis, il y a aussi comment les personnes appréhendent l'adoption et comment les personnes veulent voir les animaux. On a par exemple déjà refusé des endroits où les gens nous disaient « moi je veux juste des moutons pour couper mon herbe, pour tondre ma pelouse ». Et je leur parlais de la tonte une fois par an, de la coupe des onglons et ça n'avait pas l'air de les inquiéter et je n'avais pas l'impression que ce serait fait. Donc voilà, on fait attention à ça. En fait, on veut que ces animaux soient pris comme des animaux de compagnie à part entière tout en respectant ce dont ils ont besoin. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure avec le cochon, moi, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui m'adopte un cochon qui sera à l'intérieur d'une maison sans jardin, sans possibilité de sortir, par exemple, quoi.
Ouais, ouais. Et oui, donc il y a les adoptions, il y a les parrains-marraines. Vous organisez aussi pas mal d'événements. Ça aussi, ça permet de récolter de l'argent à chaque fois. Oui. Et j'ai l'impression que ça devient des vrais rendez-vous. À chaque fois, ça a un gros succès. Les portes ouvertes, le Noël aussi des animaux. Justement, comment c'est né tout ça? Comment c'est important? Pourquoi c'est important d'ouvrir les portes du refuge?
Alors, le refuge, il ouvre ses portes tous les 15 jours déjà parce qu'on pense que c'est très important. Mais déjà, que les personnes qui nous soutiennent déjà puissent voir le travail qu'on fait et se rendre compte au quotidien de notre travail, quoi. Et puis, y a le fait que moi, j'ai envie aussi que les personnes puissent, trouver peut-être aussi leur endroit où ils se sentent bien et où ils ont envie d'être entourés d'animaux qui sont pas exploités. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui viennent juste pour caresser les vaches parce qu'ils se sentent bien de pouvoir caresser ces vaches-ci. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, auxquels on doit pas s'excuser pour ce qui va se passer.
Ouais.
Ce qui est bien, c'est que c'est exponentiel, en gros. Ça veut dire que des personnes qui aiment bien venir ici vont inviter leur tata, leur cousin, leur pote à venir. C'est juste des multiplications de personnes qui vont venir voir ce qu'on fait et peut-être avoir envie de soutenir le refuge, en fait.
Et comme on disait tout à l'heure, à chaque fois aussi, vous racontez l'histoire des animaux, quoi. Comme ça, les gens peuvent prendre conscience, en fait, de ce qui se passe. C'est important.
C'est le plus important, en fait. Si on leur dit, je reprends le même exemple, ça, c'est Junior. Vous pouvez le caresser, il est cool, il est gentil. C'est bien, mais il manque un truc. En fait, Junior, il a été pris dans un élevage intensif, donc c'est pour ça qu'il a la queue coupée, qu'il a été castré à vif, etc. Et des gens l'ont utilisé pour s'amuser lors d'une soirée. Donc déjà, on voit le non-respect de l'animal en tant qu'animal, c'est juste incroyable. Et puis, il est arrivé ici, il était bébé, et on s'en est occupé, et voilà pourquoi il est devenu comme ça. Mmh. Par exemple, Rose, moi je l'ai eu dans ma maison à un moment, parce que c'était l'hiver et les cochons ne savent pas réguler leur température, donc elle avait trop froid. Et Rose, quand elle dormait, elle faisait des cauchemars, elle criait.
Oh.
Donc c'est de savoir ce qu'elle a vécu aussi dans cet élevage intensif. Et en fait, tout ça, on le raconte pour que les gens fassent le même « oh » que toi, tu vois, et se rendent compte que, on peut aussi avoir de l'empathie pour ces animaux-là et pas juste pour les chiens et les chats, et qu'eux aussi, ils galèrent dans leur vie, quoi.
Ouais. T'as l'impression, au fil des 10 années comme ça passées au rêve d'Abby, que le regard évolue, que la société évolue à ce niveau-là?
Ouais. Alors, oui, parce que je suis plongée dedans aussi.
Ouais, c'est ça.
Donc, mais c'est vrai que peut-être à chaque fois que je sors un peu de ce monde...
Cette petite bulle.
Avec le même genre de personnes, et je pense notamment même à ma famille, quoi. Je veux dire, à chaque Noël, c'est catastrophe, parce que moi, j'aimerais qu'il n'y ait pas d'animaux morts sur la table, et qu'à chaque fois, on me traite d'égoïste, alors que finalement, c'est peut-être bien le contraire. Et donc, à chaque fois que je sors de cette bulle, je me dis, en fait, il n'y a rien qui avance. Et puis finalement, si je prends un peu de distance... déjà toutes les alternatives véganes qui existent, toutes les associations véganes qui existent. Il y a 12 ans, quand j'ai commencé, c'était pas ça. Enfin, je veux dire, au Deleuze, il y avait que le corne et c'était pas bon, quoi. Mais c'est vrai. Et donc, maintenant, il y a même des restos véganes, et dans chaque resto, il y a moyen d'avoir une alternative. Donc, je pense que ça évolue quand même, mais c'est comme pour tout, en fait. Notre société, elle est progressiste, il n'y a rien à faire. On s'est rendu compte que le racisme, c'était mauvais, bien sûr, que traiter les femmes comme des sous-hommes, ça ne va pas non plus. Et maintenant, on prend conscience qu'avec les animaux, c'est pareil. Mmh. Et donc, ça évolue. Dans 10 ans, on aura encore fait des pas de géant, j'en suis sûre.
Ouais. Il y a ça. Et d'un autre côté, tu t'occupes aussi des plaintes et des saisies. Juste comment tu les vis à chaque fois, ça doit être vraiment horrible de voir encore tout ça.
Alors, moi, j'ai la faculté, quand je suis sur place, de pouvoir... on va dire éteindre mes émotions et de faire ce que j'ai à faire. Et voilà. Et c'est vrai que c'est souvent après, quand je suis sur des cas quand même compliqués, où j'ai tout qui revient, que je prends tout en pleine figure. Et en fait, comme je suis quelqu'un d'hyper empathique, je ressens un peu la détresse. C'est surtout les situations de détresse, moi, qui me touchent plus. Après, je vais pas dire qu'il y a une certaine habitude qui se fait, c'est pas ça, mais j'ai aussi décidé de pas détester l'espèce humaine. et donc j'essaye de relativiser et de comprendre sans être d'accord, ouais, mais en comprenant qu'est-ce qui a amené à ce genre de choses-là. Et parfois, c'est juste la bêtise et la méchanceté, on est d'accord. Hein. Mais j'essaye plutôt de faire ce travail-là que de me laisser submerger, parce qu'en soi, si je suis submergée par mes émotions, je ne vais plus réussir à aider les animaux. Et dans cette situation-là, ce n'est pas moi qui est le plus mal, c'est eux. Et c'est vraiment ça que j'essaye de gérer au quotidien, quoi.
Mmh. Oui, parce qu'en plus, bah, comme tu le disais tout à l'heure, bah, y a certains animaux qui arrivent ici, mais pour lesquels vous ne pouvez rien faire. Ça doit être un déchirement aussi à chaque fois de voir que, bah, voilà, en fait, vous arrivez trop tard, même si ce n'est pas du tout la faute du refuge, mais ça doit être vraiment difficile à vivre.
Ça, c'est le plus difficile, en fait, pour moi. C'est de sauver un animal qui, à la limite, n'est pas à l'agonie, hein, mais qui est loin, et d'essayer de tout tenter. Et parce que moi, je suis comme ça. Je veux pas baisser les bras. Mmh. On essaye, et souvent, et c'est ça qui est horrible, c'est qu'il y a un mieux, et puis après, ça décline. Et ça, c'est juste horrible, parce que en fait, on se dit « et si j'avais fait ça ?»« Et si j'étais arrivée plus tôt ?»« Et si... » Enfin, voilà. Et en fait, finalement, après, y a certains animaux qu'on a autopsiés, par exemple, et on se rend compte que non, on n'aurait rien pu faire. Mmh. Même 12 heures avant, on n'aurait rien pu faire pour cet animal-là, parce qu'il a été trop loin, parce qu'il a trop encaissé. Et qu'en fait, ce qui est horrible, c'est que quand un animal, par exemple, a été privé de nourriture pendant trop longtemps, son corps se met en off et il ne fonctionne plus, en fait. Et une fois qu'on le fait refonctionner, c'est trop dur pour l'animal de survivre à ça. Et c'est ça qui est horrible, c'est qu'en fait, on les tue en leur redonnant à manger, ouais, mais même des toutes petites quantités, quoi. C'est ça qui est juste horrible. Alors, après coup, on se dit, on aurait dû l'euthanasier en arrivant, mais on ne peut pas le savoir, parce qu'il y en a certains qui sont arrivés dans des états, on n'aurait pas parié dessus, quoi. Et qui sont maintenant, je prends le cas d'un petit Nemo qui est un poney qui est arrivé. Enfin, il n'y avait plus que la peau, les os et même l'énergie vitale n'était même plus là. Et maintenant, c'est un petit clown dans une famille qui est vraiment... moi, j'adore, je suis la page de son adoptante tout le temps et je vois ce qu'il fait. Enfin, c'est juste ça, mais moi, ça me... Enfin, je me dis, si j'avais dû faire le rêve d'habit au moins pour un animal, c'était pour lui, quoi. Et voilà, donc on ne sait pas le savoir à l'avance. Et moi, je ne peux pas me dire, je ne prends pas le risque d'essayer d'avoir des belles histoires comme ça. Mmh. Mais en même temps, on prend le risque de pouvoir les faire souffrir aussi. Donc, c'est toujours dur. Et évidemment, c'est toujours moi qui dois prendre ces décisions-là. Et donc, ça peut être compliqué.
Ouais, ouais. Tu as déjà pensé à tout arrêter ?
Oh, plein de fois. Plein de fois, je me dis, c'est bon, mais moi, je vais aller faire fleuriste, c'est plus facile, quoi. Et puis après, je regarde un animal dans les yeux et je me dis, non, allez, j'ai encore tellement de choses à faire et vous en valez tellement la peine. Et de toute façon, voilà, c'est ma vie, c'est ma mission, mmh, en gros. Je pense que je suis venue sur Terre pour faire ça, quoi, ouais, c'est tout. Et que je ne saurais jamais arrêter.
Oui, parce que tu es aussi la vice-présidente d'Animaux en Péril. Du coup, avec tout ça, avec toute la gestion dont tu parlais tout à l'heure du rêve d'habit, plus
mon ce travail poste en plus, en Péril, ouais. Ouais.
Est-ce que tu as encore du temps pour passer... est-ce que tu peux encore passer du temps autant que tu le veux avec les animaux ici ?
Non, pas assez. Ça, c'est clair. Et puis, c'est vrai que... c'est un peu bizarre, mais quand je reviens de grosses journées de saisie, etc., j'ai juste envie de m'enfermer chez moi et de prendre un bon bouquin et de plus voir d'animaux, en fait, parce que, je veux dire, on est humain et chacun a sa façon de voir les choses. Et c'est sûr que j'ai pas des journées très, très relaxes. Maintenant, c'est le prix à payer aussi. Je veux dire, j'habite au refuge. Mm-hmm. Le soir, quand il n'y a plus personne, je sors et je vais faire des petits câlins à droite et à gauche. mais c'est sûr que, parfois, j'ai besoin de faire totalement autre chose et de partir à Bruxelles, aller dans un musée, quoi, parce qu'il y a un moment où quand c'est trop, c'est trop.
Ouais, ouais. Oui, justement, comment tu te ressources, comment tu arrives à recréer ton énergie?
Alors déjà, il y a les balades en forêt, moi, qui sont un truc pour moi qui sont vitales. Mes amis sont très importants, ma famille aussi. Il y a tout ça, puis il y a mes chiens. Enfin, voir mon chien dormir à moitié sur toi, ça, c'est un truc qui me rend bien. Je fais du sport aussi, c'est très important. Enfin, en fait, Je suis une personne comme tout le monde, jusque il y a mon travail et ce que j'ai mis en place, c'est beaucoup plus qu'un travail et c'est beaucoup plus que d'avoir une entreprise parce que ça va dans tes tripes quoi. Mm-hmm. Mais sinon, en dehors de ça, je suis une fille normale quoi, avec les mêmes genres d'envie que d'autres. Là, ce week-end, je suis sortie, tu vois, comme d'autres personnes, voilà. Et donc, comme un peu tout le monde, j'aime bien faire ce que j'aime, c'est tout.
Trop bien. Mais oui, mais tu t'imagines pas avoir une autre vie que celle-là, quoi.
Non. Non, non. Vraiment pas.
Qu'est-ce que t'aurais envie pour la suite, pour le rêve d'Abby?
Ah, que ça continue à évoluer comme ça évolue maintenant, avec comment je peux dire ça? Que ça évolue toujours dans le même sens et de cette manière hyper positive. Alors moi, j'ai envie de pouvoir aider plein d'animaux, en fait. Donc de pouvoir agrandir, évidemment, enfin tout ça. Et surtout, j'ai envie, en fait, de ne plus avoir beaucoup d'animaux à aider parce qu'ils n'en auraient pas besoin. Mmh. Et c'est ça qui serait vraiment... ce dont je rêve, quoi.
Est-ce que tu penses que c'est possible?
J'ai envie de te dire oui. J'ai envie de te dire oui en sachant que c'est non. Mais parce que je suis une optimiste, quoi. Et j'ai envie de me dire que des cas où on accroche des moutons pour les empêcher de manger, non, ça n'arrivera plus parce que les gens vont avoir du respect pour les animaux, quoi. J'ai vraiment envie de ça, donc je veux y croire, donc j'y crois, quoi.
Mmh. Et on peut peut-être faire un petit rappel justement pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui veulent aider le rêve d'Abby. Comment elles peuvent faire?
Alors, soit elles peuvent être bénévoles. On a toujours besoin de bénévoles et c'est pas parce que les personnes ne savent pas porter des charges lourdes ou qu'elles ne connaissent pas les animaux qu'elles peuvent pas faire autre chose. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a un côté hors terrain qui est énorme et pour lequel on a évidemment besoin d'aide. Je pense notamment aller faire des stands de collecte de nourriture dans des magasins d'alimentation pour animaux. C'est hyper important, par exemple. Il y a évidemment les dons ponctuels. Donc ça, il y a évidemment le numéro de compte sur le site internet qui est lerevedabby.com. Il y a moyen de mettre un moteur de recherche pour donner des gouttes au rêve d'Abby, les gouttes qui se transforment en euros à la fin du mois, ce qui est quand même assez sympa.
Oui, c'est Lilo.
Lilo, c'est ça. Il y a parrainer un animal. Si on a un coup de cœur pour un animal, c'est cool. Et alors, venir nous voir, quoi. Venir parler avec les personnes qui sont sur le terrain, venir rencontrer les animaux. Et comment on peut vraiment aider le rêve d'Abby, c'est en remettant en cause nos modes d'alimentation et d'habillement, etc. Voilà.
Trop bien. Je vais te poser la dernière question du podcast.
Ouais.
Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait?
Bonne question. j'en sais rien. Moi, j'ose un peu tout, hein. Donc, j'ai pas vraiment de trucs que j'ose pas faire, mais je dirais partir toute seule avec mes chevaux dans un autre pays pour aller faire des balades de fou. Et en fait, comme je suis une angoissée des accidents, j'ai pas encore osé faire, mais ça, ce serait un de mes rêves de pouvoir partir en randonnée avec mon cheval à la main, juste comme ça, dans un autre pays, quoi. Voilà.
Trop bien.
Je sais pas si c'est la réponse que t'attendais.
Moi aussi, c'est très bien. Chacun et chacune répond ce qu'elle veut. Trop bien. Merci beaucoup, Sophie.
Mais merci, Julie, en tout cas.
Merci, Sophie, d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour suivre et soutenir le rêve d'Abby dans les notes de cet épisode. J'espère que cela vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.